Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Nous sommes mercredi 6 avril 2022. Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakawe et c'est le moment du journal. Donc voici d'abord les principales articulations. Commémoration aujourd'hui du 28e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira. La lumière attardée a éclaté au grand jour sur l'accident d'avion qui a emporté la vie du président Ntaryamira, nous dira Maître Janvier Rigiriman. Des Burundais qui commettent des crimes contre l'humanité peuvent à tout moment être poursuivis par la Cour pénale internationale. C'est Maître Lambert Nigarua qui le rappelle, faisant allusion au procès en cours aujourd'hui à la CPI du responsable des miliciers Janjaweed pour crimes commis au Darfour il y a 18 ans. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Les dirigeants du pays devraient toujours prendre des mesures en faveur du bien-être de la population et à baser leurs enseignements sur la discipline, héritage du feu président Cyprien Ntaryamira. Monseigneur Anatole Lugerignan y est revenu ce matin à la cathédrale Regina Mundi au cours de la messe pour la commémoration du 28e anniversaire de la disparition du président Cyprien Ntaryamira. Ntaryamira qui est mort dans un accident d'avion avec son homologue rwandais Juvenal Habyarimana. C'était le 6 avril 1994. Les détails avec Benny Axela Khan.
Cette messe en mémoire du 28e anniversaire de la mort du président Ntaryamira, qui a vu la participation des hautes autorités du pays, y compris le couple présidentiel, a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Dans son homélie, Monseigneur Anatole Lugerignange s'est basé sur le livre de Daniel, où des jeunes ont accepté un grand amour pour Dieu jusqu'à accepter le martyr. Le président Ntaryamira est arrivé au pouvoir au moment où le pays traversait une crise politique profonde. Les protagonistes ont tout de même accepté de s'asseoir ensemble et l'ont désigné pour diriger le pays car ils avaient confiance en lui. Feu président Ntaryamira, qui avait comme champ de bataille, a essayé de bien diriger compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays.
Feu président Ntaryamira Cyprien a essayé et nous a laissé un bon témoignage d'amour. En témoigne son élection à la présidence par toutes les autorités antagonistes, les gens au pouvoir et les opposants, sans oublier les corps de défense et de sécurité. Quand vous gardez la parole de Dieu sans relâche, vous gagnez énormément tant et tant de choses dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Pour réaliser la discipline dont ce président Cyprien Ntaryamira nous a recommandé, il faut nous soumettre à la parole de Dieu, mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est à ce prix que nous aurons l'amour les uns envers les autres. C'est à ce prix que nous allons vivre réconciliés et pouvoir édifier le pays. C'est à ce prix que nous serons en train d'honorer la mémoire de feu président Cyprien Ntaryamira.
Vous saurez que le président Cyprien Ntaryamira a été succédé par Sylvestre Ntibantunganya, qui était ministre des Relations extérieures dans son gouvernement. Ils étaient tous du parti Sawanya Frodebo.
Et s'exprimant sur la justice pour les victimes, Maître Janvier Rigirimana indique que la Cour d'appel de Paris a passé plusieurs années à explorer de fausses pistes visant le Front patriotique rwandais avant de rendre son verdict sur le non-lieu dans ce dossier. Désormais, le moment est venu, selon cet avocat burundais, pour que la justice française enquête cette fois-ci sur le rôle des extrémistes hutus proches du pouvoir de Habyarimana, ainsi que la probable complicité de certains Français dans cet attentat qui a coûté la vie au président burundais. Suivez Maître Janvier Bigiriman.
À l'issue de ce procès, on constate que la justice française a constaté, avec raison à notre avis, que l'OFPR n'a pas été impliqué dans l'attentat contre l'avion présidentiel en 1994. Pour le moment que la piste du FPR est éloignée, nous pensons que, au nom des victimes, au nom de tous ceux qui ont besoin de justice dans ce dossier. Et il faudrait que la justice française fasse un autre pas et oriente ses investigations sur les autres pistes, notamment celles qui impliqueraient ceux qui étaient extrémistes et qui étaient dans le camp de Habyarimana et qui ne voulaient pas l'application immédiate et intégrale des accords d'Arusha, lesquels accords avaient permis à ce que l'OFPR soit intégré dans les institutions rwandaises. Et nous pensons que l'autre piste, celle de poursuivre soit le gouvernement français, soit des Français qui ont été impliqués dans la commission de cet attentat. Mais nous pensons que cela pourra aussi prendre un long temps, encore que il y a des implications de la politique française pour pouvoir engager d'autres poursuites. Mais la seule voie pour les victimes d'obtenir justice, je pense que ce serait que la justice française abandonne cette piste qui n'a pas donné de résultats, mais plutôt entame d'autres pistes, celle de trouver les vrais coupables qui devraient être condamnés, éventuellement indemniser les victimes pour ce forfait qui a emporté beaucoup de vies humaines, y compris celle de deux présidents, celui du Burundi et celui du Rwanda.
Des crimes inamnistiables comme le génocide, les crimes contre l'humanité finissent toujours par être jugés. C'est le président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CBCPI, qui le dit. C'est au moment où le procès du responsable de la milice des Janjaweed, Ali Mohammadi, Ali Abdi Al-Haham, est ouvert à la Cour pénale internationale. C'était ce mardi 5 avril 2022. Il est poursuivi pour 31 chefs d'accusation, dont les crimes de guerre, crimes de génocide au Darfour sur le règne d'El-Bachir il y a 18 ans. Maître Lambert Nigaroula rappelle que partout où ces crimes ont été commis, comme d'ailleurs au Burundi, la CPI fait tôt ou tard des poursuites judiciaires contre des présumés criminels. Suivez Maître Lambert Nigaroula.
Abd al-Rahman est un proche de l'ancien président du Soudan El-Bachir et il est poursuivi pour les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre qu'il aurait commandité contre la population civile de Darfour au Soudan. Il était à l'époque le dirigeant des fameux miliciens Janjaweed qui ont commis ces crimes contre la population civile. Abd al-Rahman, comme son président, comme son ancien président al-Bachir, ne craignait rien et surtout que le Soudan n'a jamais été État-parti au statut de Rome. Donc, il se croyait à l'abri de toute poursuite. Et aujourd'hui, il est devant la justice, il est devant la Cour pénale internationale 15 ans après. Abd al-Rahman a été arrêté en juillet 2020 au moment où il se rendait en Centrafrique et il a été transféré à la Cour pénale internationale. Le procès donc d'aujourd'hui devait servir de leçon à toute personne ou tout auteur de crimes contre l'humanité, des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, comme quoi personne n'est à l'abri d'une justice, surtout s'il est poursuivi, s'il est reconnu coupable des crimes les plus graves. Donc c'est un signal fort pour ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri de la justice, parce qu'ils pensent qu'ils se sont retirés du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Un jour ou un autre, ils peuvent se retrouver aussi devant la Cour pénale internationale. C'est le cas, par exemple, du Burundi, un État qui s'est retiré du statut de Rome, alors que cette Cour venait d'ouvrir les enquêtes sur la situation, sur les violations graves, les crimes contre l'humanité qui se commettaient et qui continuaient à se commettre en toute impunité. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent être à l'abri, ils n'en aient rien. Et les crimes dont ils sont poursuivis sont des crimes imprescriptibles, sont des crimes qui ne sont pas amnistiables.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe.
C'est l'inquiétude chez les membres du club Ndouza au lendemain de l'arrestation de deux pasteurs du Faith Miracle Church, responsables de son programme d'autodéveloppement. Ils disent ne pas comprendre pourquoi la police leur demande de venir récupérer leur argent au parquet alors qu'ils n'ont pas porté plainte. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un vol organisé. Le point avec Josine Kaz.
Les membres de la coopérative Ndouza, pour qui les pasteurs représentants ont été appréhendés par la police pour vol et escroquerie, indiquent qu'ils n'avaient pas eu ce constat depuis bientôt une année de fonctionnement. Pour eux, le fait d'être informés qu'ils devront aller demander leur argent au parquet, ils y voient un piège qui pourrait être évité si la police fait la sécurisation des guichets de cette coopérative.
Ceux qui ont été volés pourraient venir au parquet pour récupérer l'argent. Moi, je trouve ça comme un truc, c'est un truc pour essayer quand même d'amener la population à accuser le président de la coopérative comme quoi il veut vraiment les escroquer, alors que c'est une fausse information. Ces gens-là ne sont pas des gens des présidents de la coopérative, ils sont juste des trésorières, mais c'est plutôt l'argent de la population. Alors, si ça devient nécessaire que la population reçoive encore une fois leur argent, je pense qu'il faudrait bien sécuriser le système pour que nous retrouvions les agences dans lesquelles nous sommes inscrits.
Les membres de cette coopérative qualifient l'arrestation de ces pasteurs d'une jalousie de certains ténors du pays ayant des microfinances qui veulent monopoliser le domaine de ce genre de business.
Cette déstabilisation provient d'une jalousie entre la microfinance qu'ils voulaient créer et les autres microfinances. Je pense selon moi qu'ils veulent monopoliser le champ de travail. C'est la raison pour laquelle ils font le tout possible pour essayer d'écarter les autres microfinances qui vont fonctionner dans le sens d'aider la population ou bien dans le sens de réussite. On voit que cette déstabilisation est en place, je dirais, bien planifiée de certains grands dinosaures dans notre pays qui veulent monopoliser le champ de travail de toutes choses qui amènent de l'argent ici dans notre pays.
Ce programme de business par pyramide d'argent est qualifié d'escroquerie par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire. C'était dans un communiqué de ce mardi dernier.
Merci Josine Kaz pour toutes ces précisions et c'est par vous que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.